vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6, il est 18h. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut.
Un invité, ça faisait longtemps dans cette émission et pas n'importe lequel puisque c'est l'un de nos premiers invités, si ce n'est pas le premier, le président.
Le parrain de l'émission presque.
Monsieur le président de la Fée des Jeux.
Bonsoir.
Et également, du coup, organisateur du festival Ludinor.
Je veux dire, feu Ludinor, faut pas pousser non plus.
C'est alors, je suis content d'être là, hein, parce que du coup, c'est ma deuxième émission ici. Et je suis toujours ravi de venir vous rencontrer.
Alors sache qu'on te donnera les clés, tu pourras venir quand tu veux. Et voilà, l'actualité fait qu'il y a beaucoup de changements en ce moment, effectivement. Alors, il y a une question qu'on pose aux invités à chaque fois qu'ils viennent, c'est comment est-ce que vous avez démarré votre carrière ludique ? Mais on te l'a déjà demandé. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis l'année dernière au niveau ludique ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des...
Alors, depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Alors, ça fait un an, un peu plus d'un an, du coup, que je suis président de la Fédé. Avant, c'était Sylvain Machène, qui est encore administrateur, d'ailleurs. Alors, j'essaie de faire avancer cette fédération de jeux de société en essayant d'y mettre le plus d'entrain possible, c'est-à-dire qu'on essaie de développer le nombre d'associations qui est attaché à cette fédé.
Oui, c'est une fédé qui regroupe toutes les associations de jeux, il y en a beaucoup, et clubs. J'allais dire de Hauts-de-France, ça va jusqu'où ça porte ?
Alors, officiellement, c'est Hauts-de-France. Pour l'instant, on est pas mal sur le Nord-Pas-de-Calais. On représente 18 assos, ce qui est le double, je pense, de l'année dernière.
Il y en a encore. C'est impressionnant, c'est ça qui est surtout qui a noté, c'est qu'il y a des nouveaux. Bon, alors pas tous les jours, il n'y a pas des associations tous les jours, heureusement, mais qui se crée. Le monde du jeu de société est en plein développement.
Donc à terme, vous serez susceptible de faire des exceptions avec des régions un peu plus lointaines, s'ils sont motivés.
En fait, ce qui se passe, c'est que on essaie de donner envie à d'autres régions de créer aussi leur fédé, de façon à avoir une fédé dans chaque région presque. J'ai eu contact avec la région Occitanie, par exemple, il y a pas très longtemps. L'Occitanie qui gère le festival l'Alchimie du jeu
à Toulouse,
et donc eux ils étaient intéressés, donc je leur ai envoyé nos statuts. Pour voir si c'était possible chez eux de faire la même chose.
D'accord. Et des jeux ou des nouvelles activités ludiques qui t'ont marqué cette année, éventuellement ?
Alors, des jeux pleins. Alors, est-ce que j'en ai en tête comme ça ? Je ne suis pas sûr.
On a ramené quelques jeux en stock.
On peut tout simplement, parce que on va parler de Ludinor. Parce que l'idée dans l'actualité, c'est que le salon est annulé, le festival est annulé. Mais on a eu le temps, tous les deux, d'aller sur des salons, peut-être les derniers de l'année, en tout cas de la saison, qui ont pu se lancer. Toi, tu as été à Cannes, donc c'était il y a 15 jours, 3 semaines déjà, au festival de Cannes.
C'était en février, c'était vers le 20 février. Quelque
chose c'était juste au début de la crise du virus, donc c'est vraiment...
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'inquiétude. Le festival se déroule à peu près normalement. Il n'y a pas eu de précautions particulières.
Cannes, c'est comme, enfin oui, on parle du festival de Cannes, il y a le festival des Cannes de jeux, puis il y a le festival de cinéma qui, il y a des fortes chances qu'il soit nul parce que la particularité, c'est que là, il y a vraiment des gens qui viennent du monde entier et notamment d'Asie. Donc là,
à Cannes pour le jeu, c'est moins le cas. On est plus en local quand même que sur de l'international, même si ça s'appelle le festival international du jeu. On a beaucoup de Suisses, peut-être.
Oh non, il était méchant. Il y a des gens qui viennent. Quand on y était allé l'année dernière, il y avait des gens qui étaient fabricants de jeux, par exemple, qui viennent de Chine présenter leur processus, etc. Il y a des gens qui viennent pour les tournois. Bon, peut-être pas le tournoi de belote, mais le tournoi d'échecs. J'imagine qu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin. C'est surtout que la particularité, c'est, même si c'est dans le salon, dans le palais des festivals qui est assez énorme, c'est dans des espaces très confinés quand même. C'est dans des espaces fermés. Et j'imagine qu'à une semaine près. On a échappé à l'annulation, pratiquement.
Alors, c'est bien ce festival où il y a les As d'or ?
C'est ça, les As d'or, oui, qui ont été décernés cette année. On a annoncé les résultats.
On les a déjà annoncés ?
Il y a deux émissions, bien sûr. Oh enfin,
l'émission, justement, les deux émissions de Back to Back, plus précisément.
Il y a le virus.
Je voulais profiter de l'occasion.
Donc, à l'occasion de ce festival de Cannes, est-ce que tu as noté des choses particulières qui t'ont... Même si tu as eu le temps, parce que tu y vas en tant que bénévole là-bas. Alors, en tant que professionnel.
Alors, j'y vais là-bas. Alors, j'y vais là-bas en tant que pro. Donc, je travaille pour un éditeur là-bas. Et puis, j'y vais aussi en tant que président de la Fédé, parce que du coup, j'en profite pour rencontrer des gens, pour essayer de nouer des liens, pour essayer de faire des belles rencontres. Voilà.
Surtout que dans ces festivals, il y a souvent des gens qui vont se retrouver à Cannes, ensuite à Toulouse, ensuite à chez nous.
On rencontre les mêmes gens qui parcourent, qui écument les festivals.
On peut piquer des bonnes idées, voire des mauvaises. On se dira, j'ai pas très apprécié, on fera différemment. Ça peut être toujours intéressant.
D'où l'idée, un petit projet dont tu nous parlais hors antenne, la création d'une association des créateurs de festivals.
Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on part simplement sur une rencontre des organisateurs de festivals, sans forcément qu'il y ait de structure spécialement. C'est juste apprendre de l'autre, échanger, se connaître, partager. C'est plus dans cet esprit.
C'est vrai que pour le fait, moi qui fais pas mal de festivals, chaque fois je vois des bonnes idées dans un festival, puis je vois un autre festival, et puis je discute éventuellement avec les organisateurs, je dis j'ai vu ça dans tel festival, vous pourriez peut-être le faire, mais voilà, c'est de la parole, il n'y a pas d'écrit. Enfin, c'est vrai qu'avoir forcément une structure, mais faire le point entre les organisateurs pour détecter les...
C'est ça, c'est l'idée de savoir comment l'autre fonctionne. Comment il en est arrivé là, comment il est financé, est-ce qu'il a des subventions, si oui lesquelles, comment il gère ses bénévoles, comment il traite ses bénévoles, on peut dire ça presque comme ça.
Un coup de fouet, bien sûr.
C'est ça. Non, mais c'est plus ou
comment,
moins.
Comment réagir à une situation de crise comme il y a en ce moment? C'était les attentats ces dernières années, puis maintenant c'est le fameux virus.
C'est ça. Alors, on a survécu aux attentats, on n'a pas survécu.
On survivra. C'est la fête de la francophonie ce week-end, ça se voit. On fait sa fête aux Français.
Tu veux un petit générique de I Will Survive?
N'a pas peur.
Alors justement, vu que Ludinor est annulé, on va essayer de parler rapidement du programme, mais surtout comment ça se passe en backstage lorsque des décisions comme ça sont prises. Quel impact ça a?
Il faut rappeler que le festival était prévu donc 28 et 29 mars, c'est donc dans deux semaines au moment où l'émission passe. Deux semaines avant, vous attendiez un petit peu parce que ça fait une semaine que ça monte, la jauge des spectateurs baisse de plus en plus.
Alors premièrement, combien de participants à Ludinor en moyenne par année, ou combien était attendu cette année?
Alors on attend entre 10 et 13 000 visiteurs à peu près.
Voilà, donc on est largement au-dessus de la barre des 5000. Donc comment ça se passe derrière à ce niveau-là?
Alors en fait, il y a à peu près un mois et demi, en sortant de Cannes, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, alors il y a le virus qui prend de l'ampleur. Est-ce que tu penses pas que ça va avoir un impact ?» J'ai dit « Oui, non, pour l'instant... »
Un impact sur le public,
Sur le public, même sur la tenue du festival. Hein. Je me suis dit « Bon, peut-être qu'on en fait beaucoup, là. » Et effectivement, il y a une bonne semaine, là, à peu près, 10 jours. J'ai été obligé, sur conseil, évidemment, de réunir un CA extraordinaire pour parler de la tenue ou pas du festival le 28 et 29 mars.
Parce que là, on est deux semaines avant le festival. En temps normal, s'il avait lieu, l'organisation commencerait à tourner, vraiment à chauffer. On commencerait à réunir les bénévoles pour qu'ils apprennent les règles des jeux, etc. On confirme auprès de tous les exposants, le traiteur, etc. Pour vraiment que le festival soit blindé. Donc là, c'est grand coup de frein. Quoi.
Alors, tu parles des organisateurs. C'est une armée quasiment de personnes qui viennent aider Ludinor. Hein,
c'est ça,
ça.
Alors, l'année dernière, on était 418 bénévoles de mémoire. Alors, c'est effectivement beaucoup de gens qui sont dans l'attente. On sait que quand on prend une décision d'annuler, du coup, on va... on va faire des malheureux, enfin des gens qui seront pas contents. Et puis il y a aussi le public où ils nous attendent, donc du coup on a une certaine responsabilité. Voilà. Alors on a une responsabilité par rapport aux bénévoles, par rapport au public, mais aussi du coup sanitaire. Hein, donc du coup on a dû réfléchir à est-ce que c'était responsable ou pas de continuer.
Et est-ce que vous avez envisagé de reporter à quelques semaines ou quelques mois ou...
Oui, alors ça a été envisagé, c'est-à-dire que on a des liens assez étroits avec la mairie de Mont-Saint-Barœul, avec qui j'ai pu discuter donc pendant quelques fois. Ils m'ont proposé des solutions. Ils m'ont proposé des solutions possibles. Alors c'était des solutions peut-être pendant l'été ou peut-être à la rentrée.
Il y a une question de disponibilité des lieux, tout simplement, aussi. Ça, c'est
ça. Alors, il y a les lieux, puis il y a aussi les gens. C'est-à-dire que pendant l'été, est-ce que c'est possible de réunir autant de monde? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça ne va pas épuiser les gens? Est-ce qu'on est sûr que le confinement va être levé d'ici là? On ne sait pas. Il y a trop d'incertitudes pour que les gens soient déçus une deuxième fois dans la même année. Quoi.
Et surtout qu'un salon comme Ludinor, ça ne se prépare pas quelques mois à l'avance. Je suppose que dès que le salon est fini, on commence déjà à penser au suivant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on travaille dès la fin du dernier au suivant. Sachant qu'on a un gros... on met souvent un départ en octobre, c'est-à-dire que... on commence à travailler sur le festival dès avril, mais c'est plus ceux qui sont très impliqués, qui commencent à créer des choses.
Recherche d'idées, etc.
Voilà, et puis en octobre, on crée les équipes pour vraiment travailler sur les idées qu'on a développées.
D'accord, et je suppose que ça s'est bien passé avec les partenaires, est-ce qu'ils ont été assez compréhensifs du...
Alors c'est ça, c'est assez surprenant. Dès lors où on a lancé l'annulation, c'est-à-dire qu'on a lancé la communication sur on annule, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Un, on a eu un retour du public qui était vraiment, vraiment chaleureux. Vraiment, les gens ont compris.
On peut le voir sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires.
Voilà, les gens ont compris, ça fait chaud au cœur. Quand on lit les commentaires, on se dit les gens, ils sont plutôt bienveillants. Ils comprennent. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pareil pour les partenaires, la plupart des partenaires comprennent la situation et reportent à l'année prochaine.
Et pour un salon de l'importance de Ludinor, toute proportion gardée, ça me fait penser à Cérimania, qui est aussi un salon qui, depuis quelques années, a gagné beaucoup en taille. Quoi. Eux, ils ont très très vite décidé d'annuler. Parce que leur argument, c'était qu'on pourrait faire un salon avec des événements réduits, parce que Cérimania est répartie sur plein d'endroits dans la région, enfin sur l'île principalement, mais dans la région. Ils auraient pu faire les expositions en plus petite taille ou des petites rencontres, etc. Ils ont dit, on veut faire un truc de qualité, on ne veut pas faire un sous-festival, donc on annule tout, tout l'année prochaine.
Ils font surtout appel à beaucoup de gens qui ne sont pas en France.
Hein, donc oui, c'est, à ce côté-là,
ça va être difficile de
on
les
aurait
faire
pu
venir.
Faire un truc qu'entre gens de la région éventuellement pas trop loin, qui ne demandent pas trop de déplacements de gens depuis l'étranger, mais si c'est pour faire un sous-festival, c'est pas la peine quoi. Un demi-festival, c'est pas la peine.
Alors est-ce qu'il y avait des petits, alors du coup ça fait un peu un spoiler sur la prochaine édition de 2021, et est-ce qu'il y avait des petits changements dans ce Ludinor de prévu par rapport à l'édition de 2019?
Alors oui, il y avait des changements, c'est-à-dire que par exemple on avait prévu un nouveau lieu, alors un nouveau lieu qui aurait été ouvert au départ que le dimanche, qui concernait essentiellement les tournois. Donc on faisait une salle
de Keyforge.
pas que, mais il y avait prévu un tournoi de Magic par exemple, ou des tournois de jeux de société classiques. Alors ça, c'était que le dimanche, et c'était prévu à la salle Alien Day de Mons. Donc c'est la salle qui se trouve en face de la mairie, hein, qui est nouvellement construite. Et finalement, ce sera pour l'année prochaine. Alors, ce sera peut-être dans cette salle-là ou dans une autre. En tout cas, il est prévu d'ouvrir un nouveau lieu pour ça.
C'est vrai que l'une des particularités de Ludinor, c'est d'avoir, alors, Dans les premières années, c'était un seul lieu, puis petit à petit, il y a eu plusieurs lieux qui se sont agrégés. Donc, c'est un festival qui est réparti presque sur plusieurs sites. Donc, je me suis dit au début, avec les jauges, d'accepter peut-être que la répartition du public, il y a peut-être moyen de l'organiser quand même. Mais bon, là, avec la fermeture complète de tous les lieux publics, c'était complètement inenvisageable.
Alors, c'est vrai qu'avec l'arrêté des moins de 5 000, des réunions de moins de 5 000 personnes, c'était possible. Si on argumentait, on aurait pu dire oui, mais par lieu, on avait moins. Mais est-ce que c'était vraiment raisonnable? Est-ce que ça avait un sens? Je suis pas sûr.
Alors là, on parle de Ludinor. Comment est-ce que ça affecte cette fois-ci la fédération des jeux? Est-ce qu'il y a, alors sachant que là la situation a évolué, est-ce qu'il y a encore des réunions dans les associations de jeux de société ou?
Alors on fait tous partie d'associations et la plupart des réunions hebdomadaires sont annulées. C'est-à-dire que là même, moi je fais partie de l'étoile du jeu. L'étoile du jeu, on nous a posé la question en tant que membre du comité d'administration et de savoir si on devait continuer ou pas. Et avec les derniers épisodes là d'aujourd'hui et d'hier, on a décidé d'annuler toutes les réunions hebdomadaires.
C'est la même chose à mon club de jeu. Moi, donc, je suis aux Arpenteurs de Rêve, hein, qu'on avait reçu il y a quelques semaines. On avait notre réunion vendredi, et on savait très très bien qu'on a eu le message de confirmation hier ou avant-hier du président que c'était c'est fini. On coupait toutes les séances, quoi.
Alors, quelle solution on a pour les joueurs de jeux de société qui n'ont pas forcément des joueurs chez eux,
enfermés chez eux,
de jouer en ligne,
tu peux même plus aller.
Alors il y a des jeux. Alors je sais qu'il y a sur mobile on a des solutions telles que Carcassonne, etc., mais qui sont pas forcément multiplayer et qui apportent pas cette petite particularité du jeu de société comme à laquelle on s'attend
et qui sont payantes
surtout.
Oui. Oui.
Mais oui, alors il y a des solutions. Hein, alors on a ouvert un forum, c'est-à-dire un lieu pour jouer sur Board Game Arena. Donc tous ceux qui souhaitent venir jouer avec nous, ben du coup ils sont bienvenus. Hein.
Board Game Arena, c'est boardgamearena.com, hein, comme ça c'est écrit, et c'est un site qui existe depuis quelques années maintenant. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais j'ai quelques parties à mon actif, et il y a beaucoup de jeux, des jeux récents surtout, il y a des jeux classiques, mais des jeux récents qui sont adaptés visuellement, et c'est souvent assez fidèle.
Ouais, c'est bien fait.
C'est plus pratique que de jouer, que de sortir la boîte et de ranger le matériel, etc. Quand t'es feignant, tu joues en ligne, etc. avec tes amis, et surtout quand t'habites.
Alors ça n'a pas le même rendu parce que du coup on voit pas les gens, on n'est pas directement avec eux et du coup ça perd un peu du sel de ce qu'on fait, mais il y a quand même un...
C'est super bien fait puisqu'en plus
rien n'empêche d'utiliser une solution de visioconférence juste à côté. Hein.
Tu vas faire, au lieu de faire du télétravail, tu vas faire du téléjeu, c'est ça?
Après, il y a des jeux de cartes, par exemple Star Realms, Magic et compagnie. T'as un PC, t'as une webcam, tu mets ta webcam au niveau de tes cartes, tu peux jouer. Enfin, il y a toujours une possibilité de. Enfin, il suffit juste d'être un peu débrouillard, quoi.
Et toujours, ouais. C'est l'avenir. Et bientôt la réalité virtuelle. Non, on va pas en reparler, non.
Ça, et puis après, les gens sont confinés chez eux maintenant, donc du coup, ils vont jouer en famille.
Bon, les magasins de jeux ne font même pas partie des magasins. Essentiel, c'est ça, donc ils vont être fermés, on peut même pas.
Ça va être dur aussi
commander en ligne, mais bon.
De proposer certains jeux assez complexes, du coup on va se retrouver à jouer à des jeux un peu plus basiques.
Après, il y a des jeux d'actualité, hein. Il paraît qu'il y a les parties de pandémie ou ce genre de jeux, où tous les jeux qui parlent de virus et de contamination et d'épidémie ont un succès renouvelé ces jours-ci, et bon.
Alors, il y a ça, on peut parler par exemple de Plague Inc.
Plague Inc. sur mobile, oui.
Effectivement, qui a été même interdit PC, ouais. En Chine. Alors c'est vrai que ça peut paraître comme un jeu de mauvais goût, mais lorsqu'on y joue, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de choses sur la transmission d'un virus, et qu'on apprend comment le virus, lui, se défend, et comment l'humain, lui, se défend également. Et j'en parlais avec des personnes qui me disaient, limite, ça devrait être obligatoire pour tout le monde de savoir comment est-ce qu'un virus se propage, quoi. Donc, mais oui, je pense qu'il y en a qui font un peu d'affaires dans le... dans la partie. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a une conférence qui était organisée par des... une conférence internationale par des hommes d'affaires. Comment gagner de l'argent pendant la crise du virus? Eh ben, tu sais quoi? Elle a été annulée parce que ils ne pouvaient pas se réunir à cause du virus. Comme quoi... Le retour de bâton.
Alors, est-ce que ça vous dit d'écouter un peu de musique?
Ça dépend, hein, faut voir. Hein.
Alors, j'ai l'impression que c'est un bon groupe, Dragon Force. Rénal, ça te dit quelque chose ?
Oui, puis même tous ceux qui ont fait du Guitar Hero le connaissent très bien aussi.
Voilà, ça fait un peu métal avec de la double pédale à gogo. Super. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ? C'est puisqu'ils reprennent. Alors attention, du Céline Dion.
N'aime pas peur.
Ça risque d'être beau. Je préviens. En plus, il y a un petit son jeu vidéo.
Ils sont assez fans des jeux vidéo.
Je cherche pas d'excuses.
T'aimes pas ?
Ah bah ça va.
Moi ça me transporte.
Ça reste du Céline Dion.
Après c'est assez répétitif dans le sens où, pas dans le morceau en lui-même, mais dans le groupe, tu reconnais des riffs et autres qui s'est déjà utilisé pour d'autres morceaux. C'est un peu dommage.
Dragon Force, c'est comme ACDC, t'as l'impression d'écouter toujours la même soupe.
Là il y a des grumeaux alors. Hein. Et pourtant j'adore ce style, enfin ce style.
Moi j'aime bien ce petit côté jeu vidéo qui arrive en plein milieu du métal.
Mais si tu veux,
j'enlève la double pédale, je te dis c'est un super groupe.
Tu fais attention, ils font pas mal de morceaux où à l'intérieur t'as des petites musiques ou des petits sons, des petits riffs qui sortent de jeux vidéo, généralement de Mario Kart et compagnie. Mais il faut vraiment faire attention.
On enchaîne avec un autre salon.
Un autre salon rescapé de l'épidémie. Moi, la semaine dernière, j'étais au salon, comme tous les ans, de Montpellier, le salon qui s'appelle Sortons Jouer. Et c'était juste avant qu'on apprenne que les restrictions, quoi. Et jusqu'au dernier moment, j'ai posé la question au président de Sortons Jouer. Tu peux envoyer le son, je l'ai interviewé, puis il va nous parler de ça.
Christophe Fiorio, c'est ça ?
C'est ça.
Je m'appelle Christophe Fiorio, je suis le président de l'association du Festival du Jeu de Montpellier, qui a pour objectif principal d'organiser le Festival du Jeu de Montpellier. J'assume cette fonction depuis 5 ans. Maintenant, voilà, le festival était un tournant, les gens d'origine ne voulaient plus continuer à l'organiser, et donc je me suis porté avec quelques amis volontaires pour reprendre en main ce festival et essayer de le développer.
Là, c'est la 11e année cette année, c'est la 3e qui se passe au Quorum, si j'ai pas de bêtises.
C'est la 4e qui se passe au Quorum.
Est-ce que tu as noté des différences? Est-ce qu'il y avait des nouveautés cette année? Je précise qu'on est à la fin du festival, donc c'est bientôt fini. Même si c'est fini pour les visiteurs, c'est pas fini encore pour les bénévoles.
Non, c'est pas encore fini, mais pas encore fini pour les visiteurs. Il y a une petite heure encore pour profiter. Les différences. Cette année, on est vraiment sur deux étages complets. L'année dernière, on avait initié une amorce de s'étendre sur le deuxième étage, mais il n'y avait pas beaucoup de tables de jeu. C'était essentiellement la buvette et des animations loup-garou. Et cette année, on a pleinement investi le deuxième étage. Donc, on a 30% de tables de jeu en plus.
Ça veut dire que l'année prochaine, il y aura peut-être le troisième étage?
Non, et l'année prochaine, on va stabiliser. On va essayer de faire au moins 2 ans bien stable comme ça. Et puis après, on verra. Après, c'est un problème aussi financier. Donc, si on a une meilleure aide de la mairie, peut-être qu'on pourra s'étendre.
Petite question d'actualité. Effectivement, jusqu'au dernier moment, tout le monde s'est posé la question. Est-ce que le festival va être maintenu à cause du fameux virus qui traîne en ce moment?
Eh bien, nous aussi, on s'est posé la question. En fait, depuis vendredi dernier, je suis en discussion avancée avec les autorités, à la fois sanitaires et préfectorales, et la direction du Quorum. Et après avoir analysé la situation sur Montpellier, mardi soir, on a décidé de le maintenir, parce que sur Montpellier, le virus ne circule pas encore dans la population. Les quelques cas qui existent, c'est des gens qui revenaient d'Italie, qui ont été tout de suite isolés. Donc, on a décidé de maintenir, en accord avec les autorités, avec la contrainte, évidemment, de limiter la jauge à 5000 comme c'était permis, et même 2000 à l'instant T le samedi, puisqu'il y avait 4 événements en même temps dans le Quorum. Voilà. Donc, ce qui fait que pendant une heure, on a un peu fermé les portes, filtré, faisait rentrer quand les gens sortaient. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. On a eu bien sûr une chute d'activité, hein, moins de gens présents, mais finalement, on a eu plus de gens que ce qu'on espérait, parce qu'on avait tablé sur 30-35% de gens en moins. On a eu 25% de gens. Voilà.
C'est une des envies peut-être des organisateurs de maintenir un petit peu le festival à une taille critique et garder ce côté
familial. Cette année, on aurait aimé grandir un petit peu encore, mais bon, là, l'actualité nous a retenu. Mais de toute manière, oui, on ne veut pas grandir plus que ce qu'on a actuellement. Donc l'idée, c'est d'atteindre à peu près les 12 000. Et avec les deux étages pleins, pour privilégier aussi la qualité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la salle est trop pleine, les gens ne circulent plus, ne trouvent plus de jeux. Et puis s'étendre, on parlait tout à l'heure de prendre un trou d'une table, je sais bien, mais ça demande plus de moyens, plus aussi de bénévoles, plus de gens impliqués. Ce n'est pas forcément facile. À chaque fois qu'on grandit, il y a un palier à franchir qui n'est pas forcément facile à absorber.
Est-ce que tu as eu le temps de tester ou de jeter un coup d'œil à certains jeux éventuellement?
Non, malheureusement, quand on organise, on ne participe pas parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés. Les gens s'amusaient bien. Nos bénévoles qui faisaient qu'une journée ont profité la deuxième journée pour jouer. Donc oui, il y avait de quoi faire. Mais moi, malheureusement, non, j'ai pas pu. Mais on va essayer de se faire une ou deux soirées post-festival entre les orgas pour profiter un peu de...
Justement, là, le festival va se terminer pour le visiteur, donc il va continuer pour les organisateurs. Et comment ça se passe un après-festival?
Il y a un après-festival immédiat. Hein. Il faut assez rapidement tout ranger. On a à peu près 2 heures pour tout ranger. Généralement, derrière, on se fait une petite collation, un petit repas entre nous sur le pouce, puisqu'on n'a pas le Quorum à disposition tard. Et puis après, on va organiser ce qu'on fait à chaque fois, outre des réunions de bilan, on va aussi organiser une ou deux soirées avec les bénévoles, leurs gars, pour nous aussi profiter du festival, mais dans un cadre plus intime.
Très bien. Merci pour ta disponibilité, merci pour le salon.
Merci à toi.
Rendez-vous l'année prochaine.
L'année prochaine, merci.
Alors Xavier, je suppose que ça se passe un peu pareil, lors des salons de Ludinor, il y a toujours un après Ludinor.
Oui. Alors après Ludinor, effectivement, il y a toujours un moment bilan. Là, c'était prévu en avril, donc avec tous les gens qui sont proches de l'organisation. Et puis, il y a tous les ans, il y a une journée bénévole aussi. C'est-à-dire que effectivement, on remercie aussi l'ensemble des gens qui participent. Et là, c'était prévu le 13 juin. Alors pour l'instant, c'est maintenu. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu Ludinor cette année, il y aura quand même une journée des bénévoles si les autorités le permettent.
Et dans ce cas-là, on fait quoi? On joue aux jeux de société?
Ça change. C'est-à-dire qu'en fait, on joue aux jeux de société. On a pas mal de.
On finit tout le stock de bière.
On a pas mal d'acteurs qui sont là aussi, les gens qui sont partenaires. Par exemple, des fois, on a des gens qui créent les escapes, qui viennent aussi pour faire l'escape, mais pour les bénévoles. Il y a, je sais pas, des châteaux gonflables, des choses comme ça pour les enfants. Enfin voilà, on essaie de valoriser aussi les partenaires.
Alors, qu'il y a des enfants bénévoles, mais les bénévoles peuvent ramener leurs enfants.
C'est ça, parce que les bénévoles viennent en famille.
Pour s'inscrire en tant que bénévole cette année, c'est quelle page déjà?
Mais c'est fermé.
Mine de rien, moi, c'est la troisième année que je vais à Montpellier, puis c'est la deuxième année que je suis en tant que bénévole, puis à chaque fois, je rencontre des bénévoles, puis effectivement, je les vois grandir. Christophe, qu'on vient d'entendre parler, sa femme fait partie des bénévoles aussi, sa fille, je crois, parmi les bénévoles, et tu rencontres les mêmes gens, et c'est vraiment des familles, c'est super intéressant.
Ça fait une grande famille, quoi.
J'ai fait plein de rencontres là-bas. Est-ce que vous vous souvenez, quand on commençait à présenter l'agenda, j'ai été tombé sur un site qui s'appelle subverti.com, qui proposait un agenda, une carte de France, et même de Belgique, je crois, de tous les agendas, les festivals de jeux à venir.
Qui nous aide beaucoup,
qui est très pratique.
Pour chaque émission.
Et j'avais dit, oh, c'est sûrement un gars qui fait ça tout seul dans son coin, pas de problème. Mais non, figure-toi qu'il était à Montpellier en tant qu'auteur de jeu, parce que Subverti s'est créé par une personne, donc, hein, qui est auteur de jeu, qui a créé des jeux, qui est donc son propre éditeur de jeu. Et il a justement, donc il a déjà fait un jeu, puis il y a son autre jeu qui vient de sortir, qui s'appelle, faut que je retrouve, alors son premier jeu s'appelait Révolution. Le deuxième, dès que je retrouve le lien, il est en ce moment sur Ulule, en financement participatif. Voilà, ce jeu s'appelle Climato, donc c'est fait par le créateur de Subverti. Il est en financement, donc si vous ne savez pas quoi faire pendant que vous êtes confiné, allez acheter des jeux, allez aider des auteurs de jeux.
Donc Climato, K-L-I-M-A-T-O. Alors, sachant qu'ils ont proposé un financement pour réaliser leur projet de 2000 euros, et ils en sont à 9005. Voilà, donc si vous participez, c'est surtout pour avoir votre édition... spécial.
Donc c'est Johan Brogol qui fait ça presque tout seul avec une illustratrice qu'il a rencontrée qui ferait vraiment des dessins vraiment excellents. Et j'espère qu'un jour on pourra peut-être l'avoir à la radio, peut-être pas parce qu'il habite à Toulouse. Donc ça va être un petit peu dur de le faire venir, mais on essaiera de l'interviewer par les ondes, par les internets.
Est-ce que toi, Xavier, t'as déjà eu envie de créer ton jeu de société?
Alors, oui.
J'en ai créé trois.
Non, oui, j'ai déjà essayé de faire ça, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les auteurs qui présentent leur jeu, qui le présentent 1000 fois, 10 000 fois à je sais pas combien de gens, parce que du coup, je suis pas sûr d'être aussi perspicace, d'être aussi attaché, ancré.
Et puis t'as peut-être peur qu'en tant que président de la Fédé des Jeux, tous les gens te disent que ouais, ton jeu il est génial, etc. Même si c'est épais, juste pour faire un petit peu de lèche-botte, non, je sais pas quoi.
Non, j'aurais peut-être plus peur qu'ils me disent que c'est nul. Peut-être.
Et qu'ils perdent son poste de président.
Je suis pas sûr que ce soit lié, mais voilà. À un moment donné, il était question de faire Ludinor le jeu, à un moment donné, par exemple, comme ça a été pour les Sons le jeu. Ou pour...
voilà. Alors du coup, t'as beaucoup de gens qui m'ont proposé des idées, et vu que Ludinor est rempli de créateurs, ça risque d'être difficile de mettre tout le monde d'accord.
Ce que j'allais dire, justement, différence entre Ludinor et justement SN, c'est qu'SN se situe dans des halls groupés. Là, dans Ludinor, t'as plusieurs lieux, donc tu peux créer une mécanique justement avec les lieux différents. Enfin, tu peux créer quelque chose de plus évolué que justement SN. Ouais. SN où c'était juste un poste d'ouvrier et une course à l'achat.
Oui, oui. Alors il y a plein d'idées possibles, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que moi, à ma petite échelle, moi j'étais parti plus sur la création du festival.
C'est pas mal aussi.
Dans l'idée, voilà. Parce que du coup, j'avais les pieds dedans. Donc c'est facile.
On a bénévole, etc. Parmi justement Ludinor l'année dernière, il y a quelqu'un qui avait remporté un prix, parce qu'il y a un prix des créateurs de jeux à Ludinor. Et l'année dernière, donc il y a un créateur qui était venu avec son jeu, qui était venu de loin, parce qu'il est venu du sud aussi, puisque je l'ai rencontré aussi à Montpellier, le créateur de El Chicho Mucho.
C'est ça, nos fameux catcheurs mexicains. qui ont gagné le prix famille de mémoire. C'est
exactement. Et moi, vous me connaissez, hein, dès que je joue un jeu avec des catcheurs mexicains, je fonce.
C'est vrai en plus. Mais généralement, ils sont un peu petits.
Ça dépend. Là, je voulais l'enregistrer en plus, mais je voulais l'enregistrer, mais il y avait tellement de bruit dans la partie proto, puis tout le monde riait, c'était, le son était impossible. Donc, et vous savez quoi, son jeu aussi est en ce moment sur Ulule. Et donc, c'est, vous cherchez El Chicho Mucho, hein, comme ça s'écrit. Voilà.
D'ailleurs, sur Ulule, il y a une photo de lui avec le prix Ludinor. Ah oui. Et le petit paquet garni qu'il a reçu en même temps.
Et un masque de catcheur mexicain, voilà. Bien sûr. Et
apparemment, donc, il a sa société The Gremlins Factory. Alors là, du coup, lui a besoin de participation. Il est à 26% sur les 20 000 demandés.
Les gourmands.
Mais voilà, ça peut être bien d'aider des personnes comme ça, surtout lorsqu'elles ont été récompensées dans des salons tels que Ludinor.
C'est d'aller rencontrer. Donc là, il a fait tout le week-end à Montpellier en présentant son jeu, ça marchait bien, etc. Puis ça permet aussi de tester, de modifier ton jeu, de corriger, de l'améliorer, puis de le faire connaître, etc. Et donc il y avait une belle zone de proto à Montpellier, puis il y avait entre 20 et 25 jeux. Et la gestion de toute la partie proto était gérée par une association, par les bénévoles d'une association qui s'appelle Sud Pixel, que j'ai rencontré. Et ben, j'ai interviewé le président de cette association, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, ça doit être le numéro 2, si je ne dis pas
de... Bien, bonjour, je m'appelle Thomas Carnissère et je suis président de l'association Sud Pixel. Alors, Sud Pixel, c'est un groupement de professionnels de la création ludique. Alors, on est basé sur Montpellier. Et on fait principalement de la montée en compétences et de la visibilité pour les différents corps de métier, en fait, du jeu vidéo, du jeu de plateau, du jeu de rôle, de l'escape game. Donc ça veut dire que au moins une fois par semaine, il y a un atelier, une conférence, quelque chose, un concours de création de jeu, c'est aussi ce qu'on fait, ou une exposition qui va concerner soit un corps de métier, soit carrément tout un pan, en fait, de la création ludique. Donc on se retrouve avec potentiellement du jeu vidéo, du jeu de plateau, vraiment tout à côté, voire même des fois mixé dans les concours de création en tout cas. On s'est lancé le 14 mai 2018, suite à une espèce de pari un peu idiot, où en fait on voulait simplement faire un apéro avec des gens qu'on connaissait. On voulait...
Souvent c'est suite à l'apéro qu'on a l'idée de...
C'est ça. Alors là c'était l'apéro lui-même qui a déconné. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait tout simplement proposer un apéro avec qui veut, amène son prototype. Et comme ça, on sait quel projet à chacun, puisqu'on faisait le côté conférence mensuelle déjà à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec trop de prototypes. Et le restaurant avec lequel on avait un petit deal pour avoir un bout du restaurant nous a dit non, mais le mieux, en fait, c'est qu'on ouvre le dimanche entièrement pour vous. Et on voit ce que vous avez et voilà quoi. Et en fait on a fini avec 29 projets de la VR, du jeu de plateau, du jeu de rôle, c'était un peu incroyable, et 400 visiteurs sur la première journée des auteurs de jeux. Et c'est ça qui nous a lancé en fait sur le groupement professionnel Sud Pixel. Donc au départ voilà, on est basé sur Montpellier, on ouvre une antenne à Bordeaux. Et puis là il y en a 3 autres en gestation, puisqu'il y a Cannes, Paris et Grenoble qui sont en train de s'agiter, parce qu'on a des adhérents un petit peu partout.
Donc pas ça d'appeler Sud Pixel alors.
Ça, c'est un peu ça, voilà. On est en train de réfléchir pour changer en réseau Pixel. Voilà. Donc, et puis après, cette année, en fait, pour la 11e édition du festival Sortons Jouer, on est devenu partenaire organisateur sur la partie nouveaux auteurs. Donc on a sélectionné les auteurs, donc on en a eu dans tout le week-end 23 sur 48 propositions.
Est-ce que tu as pu en tester et est-ce qu'il y en a qui ont retenu ton attention?
Alors, j'ai pas pu tester malheureusement parce que quand on est organisateur, on vit un peu par procuration. Par contre, j'ai pu voir effectivement des prototypes qui m'ont vraiment étonné. Déjà, il y en a, il a fallu que je vérifie que c'était bien des prototypes. C'est-à-dire que bon, on a un jeu, il est fini. L'un de ceux qui m'a marqué, c'est Invocaster. Notamment parce que c'est un jeune qui s'appelle James qui le fait tout seul. Le prototype est remarquable. Le jeu en lui-même marche très bien. Il y a un fan de jeu d'échecs et de sa fille. Ils jouent tous les deux avec sa fille. Et en fait, le père et sa fille m'ont dit c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué du salon. Parce que c'est la stratégie, c'est les échecs, mais avec des effets en plus des créatures, c'est génial. Et en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que le James en question, l'auteur, est également illustrateur. Donc, il a vraiment tout fait. Et ça, c'est le genre de truc qui pour nous, on a beaucoup de respect pour ça, parce que c'est très, très dur, en vrai, de créer un jeu de plateau, déjà, et puis alors le faire tout seul, voilà.
Et tu me disais que vous aviez une émission de radio également.
Ouais, ça fait partie un petit peu des choses qui, pareil, c'était une proposition à un moment donné de Radio Clapas, qu'on anime une émission sur où on jouerait à quelque chose. Et quand on leur a dit, nous, on serait plutôt sur le fait de parler de création ludique, c'est-à-dire de parler de comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo, comment est-ce qu'on fait un jeu de plateau, etc. Et ben en fait, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous faites pas une émission là-dessus? Et en fait, pareil, ça a déboulé sur 30 minutes quotidiennes, diffusées deux fois par jour sur Radio Clapas, donc c'est à 9h et 21h30. Ça s'appelle Games and Pixel, donc P-I-C-C-E-L. Et en fait, c'est la création ludique du point de vue des professionnels. Donc par exemple, typiquement, on va parler de à quel point c'est difficile d'avoir l'intelligence artificielle dans un jeu vidéo, mais aussi dans un jeu de société. Et on va faire le côté transversal un petit peu pour expliquer au grand public comment cette partie-là va être difficile. Ça va être une émission. De l'autre, on va faire une découverte. De l'autre, on va comprendre pourquoi est-ce que typiquement Pandémie est devenu un jeu culte. Voilà, donc on va essayer d'analyser un petit peu les industries ludiques et les jeux pour essayer de décortiquer un peu ça, pour essayer en plus d'intéresser les gens au jeu d'une façon générale, mais aussi à la création de jeux. Parce que la plupart du temps, c'est pas si éloigné que ça.
Donc, si vous voulez écouter cette fameuse émission de radio, ils nous écrasent hein, en matière de... Ils ont commencé quoi l'année dernière? Ils sont à plus de 100 numéros. C'est sur... donc, la radio, c'est Radio Clapas. C'est L-A-P-A-S. Donc, radioclapas.fr. La mission s'appelle Games and Pixels. J'ai écouté, c'est vachement intéressant. Une demi-heure chaque jour sur la création de jeux dans tous les domaines. Donc, il y a plein de sujets passionnants. Vous pouvez retrouver ça sur leur site. Le petit défaut, c'est qu'on n'arrive pas à les télécharger. Il faut les écouter via le site, mais c'est tout.
Oh, il doit toujours avoir des petits moyens.
Ils font des émissions spéciales, genre tes musiques de jeux préférées, parce que ça touche tous les jeux vidéo, etc. Un petit peu dans le genre de ce qu'on fait, quoi.
Est-ce que dans la Fée des Jeux, d'ailleurs, il y a des gens qui créent des podcasts ou font des émissions sur le jeu de société, peut-être des vidéos ou...
Alors moi, j'en connais pas. Mais
c'est tellement à la mode, il y en a tellement maintenant. Que...
C'est ça. Mais en fait, alors dans le lore, je disais... En off, hein, que effectivement il y a un collectif des auteurs du Nord qui existe, qui se réunissent dans l'île tous les mois. Et donc c'est un collectif où les auteurs se check, enfin ils essaient de voir pour tester leur proto, pour essayer d'améliorer leur petit bébé, j'allais dire c'est comme ça. Alors soit en vue d'une édition prochaine, soit juste pour le plaisir, parce que du coup on n'a pas forcément envie d'éditer un jeu, hein, je veux dire voilà, et c'est intéressant et c'est sympa de les rencontrer.
Alors d'ailleurs, dans Heureusement en France, on a nos podcasts sur le site anotherpodcast.fr. Et si jamais un jour vous êtes intéressé par faire un podcast un peu comme ça, ludique, contactez-nous, on verra.
Ouais, si on peut faire.
Dominique, je te laisse enchaîner.
À propos d'auteurs de jeux, justement, j'ai aussi rencontré... Enfin, il y avait plein d'auteurs de jeux qui venaient présenter leurs protos. Et il y en a un qui était particulièrement intéressé, qui m'a attiré l'œil. C'est Guilhem, je l'ai enregistré aussi, qui va nous parler de son jeu, le grand conteur des mémoires.
Bah bonjour, moi je suis Guilhem, 35 ans. Je suis concepteur de jeux depuis maintenant 3-4 ans, en fait. À la base, je conçois des jeux pour une marque de figurines, donc je fais du jeu de figurines, et on va essayer de faire aussi des jeux de société à base de figurines. Et en plus de ça, justement, je fais aussi mes propres jeux de société en parallèle, dont là, le grand conteur des mémoires que je présente aujourd'hui au Festival Jeux de Montpellier, Sortons Jouer.
Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe du jeu?
Alors, le principe du jeu, c'est une chasse au trésor, dans laquelle, justement, on va essayer d'amasser le plus de trésors. Mais en fait, pour nous aider, à chaque fois qu'on va arriver dans un nouveau lieu, On va avoir une sorte de rêve prémonitoire qui va nous montrer en fait quel trésor on va trouver et comment surtout on va les récupérer. On va avoir des actions spéciales à faire et utiliser des objets qu'on a dans notre sac à dos ou qu'on va peut-être trouver sur place aussi. Ça va dépendre un peu de comment on va raconter notre histoire. Et en fait, pendant ce rêve prémonitoire, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va devoir piocher des cartes, donc des cartes actions, des cartes objets, des cartes trésors qu'on va trouver. Et avec ces trois cartes, on va devoir créer une scène qu'on va créer dans notre tête, une sorte d'image mentale en fait, et qu'on va essayer de faire corréler avec l'image du lieu dans lequel on se trouve. Donc par exemple, souvent on commence le jeu sur une plage, et il y a un petit singe dans un cocotier. Donc si je tire la carte trésor rubis, la carte action charmée, et la carte objet une chaîne, ce sont vraiment des trucs au hasard, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça, je vais dire par exemple, le petit singe, il avait un rubis entre les mains, et j'aurais bien voulu le récupérer, donc j'ai grimpé au cocotier avec la chaîne. Et arrivé en haut, le singe, il voulait pas me donner son rubis, forcément, c'était le sien. Donc j'ai essayé de le charmer, et bizarrement, il a répondu favorablement à mes charmes. Je sais pas ce que j'avais de spécial, peut-être sous-poilu, j'en sais rien. Et il m'a donné ce rubis, donc je suis redescendu. Et après, je suis parti faire le reste, je suis rentré dans une épave, il s'est passé d'autres trucs. Voilà. Et tout ça, en fait, je vais essayer, c'est mon rêve prémonitoire. Donc je vais essayer de le mémoriser. Parce que, une fois que le rêve va se terminer, je vais effectivement aller sur cette plage, et il va falloir que je me rappelle ce que j'ai vu dans ce rêve prémonitoire pour réussir mes actions. Parce qu'en fait, c'est mon destin. Si je fais autre chose, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir que je me rappelle, en fait, ces successions de scènes que j'ai inventées juste avant. Et plus elles vont être stupides, choquantes, même effrayantes, des fois, ou absurdes, plus je vais m'en rappeler, en fait. Parce que ce jeu-là, en fait, ça fait un petit moment que je pense à le faire, parce que moi, ça fait 2 ans que je travaille sur l'art de la mémoire, qui est une discipline qui a de l'antiquité. Et en fait, il y a plein d'outils qui servent justement à mémoriser tout plein de trucs. Et il y a pas mal d'outils que j'ai cachés dans mon jeu. Donc on s'en perçoit pas, en fait, finalement, qu'on utilise ces outils en jouant, parce que ça reste un jeu. Mais au final, tous ceux qui ont joué ont été bluffés parce que ils ont souvent réussi, en fait, finalement, à mémoriser des histoires avec des suites de scènes. Et ce qu'ils ont fait en mémorisant ça, c'est qu'ils ont mémorisé des suites de cartes, finalement, et des suites de mots. Et il y en a certains, ils ont mémorisé jusqu'à 75 mots dans l'ordre. Sans s'en rendre compte, finalement. Et ils étaient bluffés et super fiers d'eux à la fin. Jamais, c'était dit, mais jamais on me dit en un quart d'heure, 20 minutes, je vais mémoriser 75 mots. Et il y en a qui sont venus hier et qui sont revenus aujourd'hui et qui m'ont dit, mais je m'en souviens encore. Et donc, je suis super fier parce que, justement, je pensais pas que des gens qui s'étaient pas entraînés à ça y arriveraient. Moi, j'y arrive parce que j'ai l'habitude depuis le temps, mais voilà. Et donc, ouais, c'est une franche réussite et je suis très très fier de ceux qui ont joué et qui ont réussi à aller si loin. Et je suis fier aussi de mon jeu.
Alors, est-ce que tu penses le sortir et tu le fais tester, tu profites d'un salon comme ça pour le faire tester? Est-ce que tu as déjà trouvé sur ces 2 jours des modifications, des améliorations à y faire?
Alors en termes de mécanique de jeu, en fait, pas beaucoup. Il y a eu deux trois petites modifications, mais vraiment mineures sur les pioches de cartes, des petits trucs comme ça. Ça n'a pas changé grand chose. Par contre, là où il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est sur la présentation un peu de comment expliquer les règles et de comment mettre en scène tout ça pour que les joueurs y adhèrent instantanément. Et ça s'est fait sur le début de la matinée d'hier, finalement, de trouver les nouveaux trucs. Et ça a super bien marché, parce que tous ceux qui ont essayé depuis, ils s'éclatent. Et moi aussi, je m'éclate à écouter leurs histoires qu'ils ont réussi à inventer et à mémoriser en plus. J'espère les sortir relativement rapidement, parce que là, tous ceux qui l'ont testé, et surtout les professionnels de santé, les orthophonistes, il y a aussi des personnes qui travaillent avec des Alzheimer qui trouvent ça génial, et aussi des instits ou des éducateurs spécialisés qui m'ont dit que c'était génial et qui voulaient avoir un exemplaire super rapidement. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire, et j'ai une petite touche avec un éditeur là, tout à l'heure, donc je suis très très content parce que justement c'est la fin du festival et ça me tombe dessus maintenant, donc je suis un peu content quand même.
Ça, c'est vraiment la chose que tu espères lorsque tu présentes ton jeu dans pour la première fois dans des salons, oui, c'est de guetter l'éditeur qui tourne.
Tu t'aperçois que ça va plus loin, quoi, le domaine du jeu, effectivement, là, ça touche presque le côté médical, la mémoire, Alzheimer, etc. Enfin, ils ne pensaient pas à ça au départ, quoi.
Et oui, ça peut être très, très instructif, des fois.
J'enregistrerai un petit bout de partie du jeu, alors si on verra bien si le son est potable ou pas.
Bon, écoute,
je me suis incrusté à une table de jeu.
Il avait retiré son armure, il était en train de la laver.
Normal.
Ouais. Il était en train de la laver.
Il y a le joueur qui essaie de se souvenir des actions qu'il a choisies.
Il y avait quoi comme objet dessous?
Ouais.
Très bonne question.
Ils sont comme trésor.
Je te remercie de... Pardon, merci. Il y avait quoi comme objet? Je sais plus.
Harry Potter, il l'a dans sa poche.
Baguette? Non. La pierre philosophale. Pierre philosophale.
Il y a un petit côté aussi Time's Up, je pense, où tu devais
te souvenir de plusieurs. Tu prends trois cartes où il y a un objet, une action et puis un personnage, et tu inventes une histoire, et ensuite tu donnes les cartes à l'adversaire, donc tu fais ça plusieurs fois. Donc à la fin, tu as un tas de cartes de l'adversaire, et il essaie de se rappeler des histoires qu'il a inventées. Donc le but, c'est d'essayer d'inventer les histoires les plus loufoques pour que ça soit plus mémorisable.
Alors tu as apporté quelque chose d'exceptionnel, c'est que tu as enregistré le son d'ambiance.
Son d'ambiance. On va faire mal aux organisateurs de Ludinov.
Dans cette période où tout le monde ne peut plus participer à des événements en société.
Tu peux le mettre légèrement en fond pendant qu'on continue de parler.
Voilà, on fera semblant qu'on est entouré de plein de gens. D'habitude, t'espères que le studio soit calme, mais aujourd'hui, on va faire l'inverse.
On a l'impression qu'il y a des milliers de personnes dans la
salle. Même pour chez toi, ça fera 3 semaines et tu seras petit chez toi, tu mettras un petit son d'ambiance comme ça, tu dis « Ah, il y a du monde, je me sens mieux
». Donc là, le jeu dont on parlait, ça s'appelle « Le grand compteur des mémoires » et c'est à suivre, je pense qu'on va entendre parler de lui.
Un petit jeu de société pour terminer.
Alors, comme j'étais bénévole au salon, j'ai eu le temps de tester qu'un seul jeu, heureusement, parce qu'en plus je l'ai acheté. Donc si j'avais pu tester 10 jeux, est-ce que j'aurais acheté les 10? Je suis pas sûr. C'est un petit jeu tout simple qui s'appelle Yokai, Y-O-A-K-Y. Yokai, ce sont des esprits japonais. Les esprits, les petits démons, etc. Et c'est un petit jeu qui fait penser aux memory. C'est juste des cartes de forme carrée. Et en fait, le principe, c'est que il y a les esprits sont de 4 couleurs, donc rouge, bleu, vert et violet.
Xavier est en train d'étudier le jeu et voir s'il va voter
il y a 4 cartes de chaque 4 cartes de chaque couleur, et on les pose sur la table en carré et on les mélange et on les met en forme de carré, ce qui fait que les couleurs sont réparties un petit peu partout, mais on ne sait pas lesquelles. C'est un jeu coopératif et le but, c'est d'apaiser les esprits. Et comment on apaise les esprits? Il faut réussir à les réunir, donc il faut que les 4 cartes rouge se touche, que les 4 bleus se touchent, etc., etc.
Ah bon, on sacrifie pas une vierge, rien, quoi.
Peut-être pas dans cette version-là.
Ah bon, tant pis.
Oui, c'est un jeu familial encore. Hein. Et en fait, à tour de rôle, on va faire une action. Alors le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de parler entre nous, on peut pas donner d'indices. Un joueur, quand c'est son tour, il va regarder des cartes posées, un petit peu à la façon d'un memory. Il va les regarder, il va les reposer au même endroit. Deuxième action possible, il va pouvoir déplacer une carte. Pas forcément une des cartes qu'il a regardées, mais par exemple, si tu regardes les deux premières cartes et qu'elles sont toutes les deux de la même couleur, tu as envie qu'elles restent ensemble. Donc tu vas faire exprès de déplacer une autre carte pour faire comprendre aux autres joueurs, s'ils sont pas trop bêtes ou pas trop bourrés. N'est-ce pas, Rénal?
J'étais bien hier.
Ça va. On y a joué hier, oui. Et que si j'ai bougé cette troisième carte, c'est que les deux premières cartes, j'ai envie qu'elles restent ensemble. Et petit à petit, comme ça, on va construire. On a aussi des cartes indices qu'on va retourner et qu'on va pouvoir poser. Alors les cartes indices, il y en a qui sont d'une seule couleur. Donc si je pose la carte indice vert sur une carte, ça veut dire que je signale aux autres, cette carte-là, c'est une verte. Et en plus, on ne pourra plus bouger cette carte. Donc petit à petit, à tour de rôle comme ça, sans parler, sans communiquer, rien qu'avec le choix de déplacement de nos cartes, on va essayer de reconstituer entre nous, de regrouper les cartes pour apaiser les esprits. Et à un moment, si on pense qu'on a bon, on retourne et on vérifie. Et moins on a utilisé d'indices, moins on a dévoilé d'indices, plus on va faire un score élevé. Donc au début, bon, nous, on a un petit peu triché, on communiquait un petit peu entre nous, etc. Sans dire cette carte-là, c'est une rouge, etc. Mais on s'aidait un petit peu. Mais plus tu joues, plus tu améliores tes réactions, tes échanges.
Ouais. Et la petite règle sympathique qui te corse un peu le jeu, qui te force justement à prendre le côté coopératif au sérieux, c'est qu'une fois que tu as posé une carte indice sur une carte, elle ne bouge plus.
Tu n'as plus le droit de la regarder, tu n'as plus le droit de la bouger.
Voilà. Et donc, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais, parce que quand tu as une carte indice qui te propose 3 couleurs, il faut que tu sois à peu près sûr que les autres ont aussi compris pourquoi tu poses cette carte 3 couleurs-là et qu'ils ont compris quelle couleur tu... Donc, c'est vraiment important.
Quand tu as repéré des cartes, que tu es sûr, tu les as mises dans un coin, tu fais comprendre aux autres joueurs qu'il ne faut plus les toucher, et que tu as un des joueurs qui vient regarder une des cartes, tu lui dis « Mais pourquoi tu la regardes? Tu sais ce que c'est? J'ai tout fait pour que tu saches ce que c'est. » Et presque on s'engueule par moment, et puis on vérifie. On t'a des doutes, et tu penses avoir retenu certaines cartes, et tu sais plus ce que tu as regardé. C'est assez sympa, c'est tout simple. C'est un jeu qui ne coûte pas cher. Il coûte 12 euros. Le seul défaut, c'est que les cartes font quoi? Elles font 8 8 cm sur 8, la boîte fait 12 sur 12, il y a beaucoup de vide dedans. Il y avait moyen de faire un packaging un petit peu plus petit, avec des règles un peu plus petites, et les dessins sont très sympas.
Parce qu'on aime bien tout ce qui tient dans la poche ici.
Oui, c'est ça, j'ai presque envie de sortir les cartes et de les mettre dans une autre boîte pour le transporter plus facilement, pour gagner un petit peu de place, quoi. Mais bon, pas de souci. Donc c'est Yokai, c'est chez Banquise Édition.
Et n'hésitez pas, si vous voulez retrouver un peu tous les jeux, les actualités dont on a parlé dans cette émission, ils sont disponibles sur notre site. Et il suffit de chercher Heureusement en France sur Facebook, Instagram, etc.
On a même sur Reddit et même sur Discord maintenant. Et tout.
Waouh. Dernière petite news. En tout cas,
oui. On n'a pas parlé beaucoup de virus dans cette émission.
À peine.
Et pourtant, il y a un virus dont il faut parler, dont je parle à chaque fois. Le virus informatique. Le 43e numéro vient de sortir. Indispensable, bien sûr. Toujours 2 euros, sans publicité. Qu'est-ce qu'il y a comme article intéressant, ça quand vous allez au supermarché ou dans des magasins, on vous propose toujours des codes barres ou des concours ou d'installer une application pour participer à des concours en ligne, des concours, etc. pour gagner des trucs. Et ils se sont aperçus dans le virus informatique que les tirages au sort n'est pas toujours aléatoire et il y a des petites astuces pour augmenter tes chances de gagner. Donc je ne vais pas les dévoiler à l'antenne, bien sûr. Si vous voulez savoir comment gagner à tous ces jeux bidons,
ne le faites pas, comme ça on a plus de chances.
Il faut acheter le virus informatique. Trouvez-le. Est-ce que ça fait partie des commerces ouverts, les marchands
oui,
de
les bars tabac.
C'est bon, donc vous pourriez y aller encore.
Ouais, vous pouvez y aller.
Très bien. Xavier, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Alors,
forcément, on aurait préféré que ça soit dans ces circonstances plus heureuses pour annoncer des bonnes nouvelles pour le futur Lidinor, mais bon, ça sera l'année prochaine.
Donc effectivement, pas malheureusement à la déception de tout le monde, hein, puisque c'est l'un des plus gros événements ludiques du Nord.
Plus gros.
Est-ce que vous pensez déjà à 2021 du coup ?
Alors oui, nous on a déjà nos dates pour 2021.
4 jours cette fois.
On les dévoile pas maintenant parce que du coup c'est pas forcément le bon moment tout ça pour en parler, mais il y aura un Ludinor 2021, c'est prévu. On va se regonfler, on va se remotiver pour faire ça. On a déjà bien avancé du coup puisque l'annulation fait qu'on est en avance sur plein de choses. Par exemple, je sais pas moi, la commande des t-shirts. Du coup, on a déjà nos t-shirts pour 2021
qui seront barrés avec le zéro est barré avec un petit 1.
Ah oui, tous les gobelets, c'est vrai. Est-ce qu'ils étaient
les gobelets
Oh mon Dieu,
tout ça, voilà.
Et c'est collector maintenant les gobelets. Si t'as un gobelet 2020 Ludinor, c'est collector.
Tu aurais dû ramener un gobelet pour Dominique.
Faut le revendre sur internet.
C'est
super
ça,
cher.
Les affiches 2020 collector, tout ça, qui se vendront à prix d'or l'année prochaine ou pas. Voilà, en tout cas, encore une fois, moi je vais remercier évidemment tous les bénévoles qui ont participé, même si ça a été annulé à cette édition 2020, parce que sans eux, on fait rien. Remercier le public de tous ces petits mots gentils qui boostent et qui font que on est remotivé pour l'année prochaine. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde, évidemment, en mars 2021.
Et puis tu viendras ici aussi dans l'émission en parler.
De toute façon, nous, on suit l'actualité dès l'agenda de toutes les... malheureusement, tous les salons à venir sont annulés, des plus petits aux plus grands. Mais dès que ça reviendra, on remettra notre agenda à jour et puis on vous fera participer à une trouvaille.
Voilà, Xavier, merci. Et on te souhaite une bonne continuation dans cette fête des jeux. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine, on espère.
En direct, hein, puisque les émissions de Radio Campus, malheureusement, les studios sont fermés, puisqu'ils appartiennent à l'Université de Lille, hein, l'université ferme. Donc les radios...
Mais on essaiera d'enregistrer de notre côté, de manière très sécurisée, bien sûr. Voilà, je vous souhaite à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus Lille, 19h.